Et si, au lieu, comme toujours, hein, de suivre le fil, le cours de l'histoire de l'art et dire, par exemple, de Titien à Manet, et si on disait carrément de Manet à Titien, hein, si on jouait la carte de l'anachronisme de cette façon-là. Alors, si je dis ça, c'est parce que c'est par allusion très précise, en fait, à un tableau archi-connu de Manet, qui est l'Olympia, hein, la fameuse, le scandale de l'Olympia, etc., dont vous savez qu'il est en fait inspiré directement de la Vénus d'Urbain, la Venere d'Urbino de Titien, peinte en 1538 par Titien, donc plus de 300 ans plus tôt, 335 ans, si je ne me trompe pas, ou 325 ans plus tôt, et exposée alors à la tribune des offices de Florence. Bon. Et je veux dire, je me suis longtemps posé la question, comment se fait-il que parmi la multitude de nus féminins couchés, qui avait été peint dans la peinture occidentale depuis 3 siècles, comment se fait-il que Manet soit choisir celui-là, hein, pour en faire le point de départ d'Olympia, qui par ailleurs est une des œuvres fondatrices de la modernité en peinture. C'est extraordinaire, d'autant plus que la Vénus d'Urbain était un tableau connu, bien sûr, puisqu'il est à la tribune des offices, mais ce n'était pas un des tableaux les plus admirés, ni un des nus les plus admirés de Titien. Alors comment se fait-il que Manet, hein, de Manet, à Titien. C'est une question, je trouve, que l'historien peut se poser. Il n'est pas obligé, hein, mais il peut se la poser. Parce qu'elle a l'intérêt, je trouve, cette manière de poser des questions, et on peut en poser d'autres, hein, de Cézanne à Poussin, par exemple, on pourrait dire ça aussi, il n'y a pas de Poussin à Cézanne, mais Cézanne à Poussin. Bon, elle a l'intérêt, ce genre de question, c'est qu'il ne s'agit non pas à nouveau de retrouver le regard de l'artiste, c'est pas ça la question, je ne retrouverai jamais le regard de Manet, je n'aurai jamais le regard de Manet, mais d'essayer, comme historien, d'approcher l'histoire que je fais ou que nous faisons de la peinture, de la façon dont les artistes eux-mêmes ont regardé la peinture. Parce qu'encore une fois, ce sont les artistes, hein, qui ont fait l'histoire de l'art en dehors des catégories de l'histoire de l'art. Donc de Manet à Titien. Hein, comment se fait-il? Alors comment l'historien peut faire? En sachant au départ que Manet, avant Olympia, a fait une petite copie minuscule de la Vénus d'Urbain, donc très manifestement, hein, il l'a copié quelque chose une dizaine d'années avant, petite copie minuscule, qui devient Olympia une dizaine d'années plus tard. Donc c'est pas une invention d'historien, Manet lui-même donne la trace de cette filiation. Alors, on peut à ce moment dire ce qu'on veut, hein, sur Manet, et on peut continuer bataille, on peut dire, absolument, on est libre, hein, comme poète ou comme philosophe, de dire ce qu'on veut sur Manet. L'historien que je suis a préféré aller interroger, en essayant d'oublier Manet, essayer de voir comment fonctionnait le tableau de Titien. Hein, qu'est-ce qui a bien pu attirer Manet dans ce tableau? Donc comment fonctionne le tableau du point de vue d'un historien? Et je veux dire qu'à ce moment-là, j'ai des réponses. Hein, le tableau m'a donné, hein, m'a beaucoup gratifié de lui poser cette question. Hein, comment fonctionne-t-il? D'abord parce que c'est un tableau que Titien... Alors il faut se rappeler que Titien est un des plus grands peintres de nus féminins, hein, de la Renaissance vénitienne, et que ça sera un de ses titres de gloire. Le nombre de nus féminins couchés qu'il peint et de copies, hein, que son atelier fait de ses nus féminins est considérable. Titien est un des grands inventeur du nu féminin européen. Or, il souffre la Vénus d'Urbain, et son premier nu féminin couché, et qu'en même temps, il l'a peint quand il a 50 ans. Hein, c'est-à-dire il a une cinquantaine d'années à peu autour quand il y a la Vénus d'Urbain, et que donc c'est pas un tableau de jeunesse, c'est un tableau extrêmement médité pour répondre à une commande précise, et Titien, à ce moment-là, revient lui-même à un tableau de 30 ans antérieur, la Vénus de Dresde de Giorgione, qu'il met à l'intérieur d'un palais. Hein, et on dit, bon, ben, la Vénus de Dresde, c'est une Vénus dans un paysage, et l'autre, la Vénus d'Urbain, c'est une Vénus dans un palais. Tout ça est évident. Seulement, je me suis posé une question dans un palais, et j'ai commencé à regarder quelle était la relation entre la figure couchée et le palais. Alors, je décris rapidement le tableau. La Vénus d'Urbain, qui est un tableau, je crois qu'il doit faire 1,60 m de large sur 1,20 m de haut à peu près, hein, les dimensions sont approximatives, présente la tête à gauche et les pieds à droite. Au premier plan de l'image, une ravissante jeune femme nue, avec à ses pieds un chien qui dort. Cette jeune femme est étendue sur un lit, dont le drap est légèrement relevé sous son bras droit, sur lequel elle prend appui pour qu'on voit les deux matelas rouges de son lit. Et à l'arrière-plan, vous avez dans la moitié gauche du tableau un pan de peinture noire avec un rideau vert noué. Et dans la moitié supérieure droite, vous avez une salle de palais, alors effectivement, avec un dallage en perspective, des tentures au mur, deux servantes qui s'affairent auprès d'un coffre. Il y a un coffre ouvert, une servante est à genoux, la tête à moitié plongée dans le coffre, et l'autre servante est debout, portant sur son bras la robe de Vénus. Et à côté, vous avez une fenêtre avec un pot de myrte sur la fenêtre, une colonne, et la nature et le ciel qui jouxte donc la partie noire supérieure gauche. Et ce qui m'avait intrigué depuis longtemps, après avoir lu, il faut dire, Lomazzo, qui disait que la grande force de Titien, c'était la concatenazione di spazi, c'est-à-dire l'enchaînement des espaces. Et j'avais ça en tête, hein, j'avais le texte de Lomazzo de 1583, parlant de Titien, né sous la lune, peintre lunaire, etc., et très fort en concatenation des espaces. Donc je me suis posé la question, mais comment sont liés les deux les espaces de la Vénus d'Urbain, c'est-à-dire le lit où la jeune femme, et l'arrière-plan avec la salle de palais et la perspective. Et là, il m'a fallu du temps pour le voir, en fait, ces espaces ne sont pas liés. Hein, ils sont juxtaposés. Et ce ne sont pas deux espaces, ce sont deux lieux. Hein, il y a le lieu du lit, hein, avec la jeune femme nue sur le lit, le chien endormi, etc., le bracelet, les roses. Hein. Et puis, vous avez ce deuxième plan, avec la moitié hein, en écran noir, un pan de peinture noire, et puis la salle. Et Panofsky, le grand Erwin Panofsky, grand spécialiste de Titien, quand il décrit hein, le passage d'un à l'autre, il dit, bon, il y a d'un côté le rideau, hein, qui sépare le lit du premier plan de la salle d'arrière-plan, donc c'est cette verticale, et puis le bord du pavement, qui sépare le lit du pavement en perspective. Or, le problème, c'est que la séparation entre le premier plan et l'arrière-plan hein, se fait par un pan de mur noir, dont la ligne est absolument verticale. Il n'y a aucune déformation qui soit celle d'un pli de rideau. Un rideau, c'est jamais absolument rectiligne. Et là, ça n'a aucune épaisseur, c'est noir, et c'est la ligne de séparation entre écran noir et salle vient juste à l'aplomb du sexe hein, de Vénus au premier plan. Et le bord de pavement qui articulerait le lit hein, à la salle d'arrière-plan, ce bord de pavement suppose que la pièce du palais est à deux niveaux. Hein, parce que ça voudrait dire que qu'il y a une marche hein, qui veut passer de l'endroit où il y a le lit de Vénus vers l'arrière-plan où il y a la salle avec les servantes. Et en fait, je ne connais pas personnellement de palais vénitien hein, qui serait, je dirais, en duplex. Il n'y a pas de palais vénitien en duplex, ça n'existe pas. De même que je ne connais pas de rideau qui tombe tout noir et qui tombe comme ça sans faire un pli, si j'ose dire, à l'aplomb du sexe de Vénus. Alors, l'idée qui m'est venue, je vais accélérer un petit peu, l'idée qui m'est venue, enfin la réponse, c'est qu'en fait, il ne s'agit ni d'un bord de rideau, ni d'un bord de pavement, il s'agit seulement de deux bords. Hein, de bord de représentation, il y a le bord eh ben, de la salle hein, qui s'arrête là, et puis le bord de l'écran noir qui s'arrête là. Et qu'il n'y a pas de lien entre ces deux espaces, hein, parce que si je commence à vouloir penser le lien entre le lit et la salle qui est à l'arrière-plan, eh bien, je serai obligé de dire que Vénus hein, dort dans un palais vénitien avec deux matelas à même le sol. Bon, ce qui est absurde, c'est absurde parce que les lits de l'époque étaient surélevés. On le sait, tous les lits de l'époque impliquaient qu'on montait dans le lit. On les montait par des coffres, il y avait des marches, on montait dans le lit. Or là, le lit a l'air d'être rabaissé. Donc, il n'est pas question de dire que Vénus est dans un palais vénitien pour la Vénus d'Urbain. En fait, l'astuce, et ça je m'étais rendu compte il y a longtemps, l'astuce de Titien consiste à avoir placé ce corps de Vénus hein, splendide. Un vénitien, Sperone Speroni, dit à la même époque, il dit je crois en 1537 dans les Dialoghi d'Amore, que Titien peint le paradis de nos corps. Hein, et il pense aussi à la Vénus d'Urbain qui est en cours à ce moment-là, hein, dans l'atelier de Titien. Donc il y a ce corps magnifique, hein, paradisiaque, de jeune femme nue au premier plan. Et puis à côté, hein, dans le fond, il y a un tableau dans le tableau, on va dire, qui est celui de la salle avec les deux servantes. Mais cette salle avec les deux servantes, elle me donne aussi ma place par rapport au tableau, puisqu'il y a la perspective. Donc elle me met à un certain endroit du tableau, et la conclusion à laquelle j'avais abouti, c'est que le corps de Vénus se trouve entre deux espaces, hein, dans un lieu, mais pas dans un espace, il se trouve entre deux espaces, celui de la salle peinte au fond avec la perspective et les deux servantes, le coffre, etc., qui, par la perspective géométrique, donne à moi, spectateur, hein, ou regarde spectateur, une position précise dans le tableau, c'est-à-dire à moi, spectateur, dans l'espace, en face du tableau. Le corps de Vénus se trouve entre l'espace représenté au fond du tableau et l'espace réel où je me trouve pour observer ce tableau, mais lui-même n'occupe aucun espace défini, si ce n'est la toile. Hein, le lieu du corps de Vénus, c'est la toile du tableau de Titien. Elle n'occupe pas d'autre espace que cela, elle est à même la toile. Son lieu, c'est la surface de la toile. Et j'en étais arrivé là dans mes analyses du tableau de Titien, et je dois vous dire que j'avais oublié la question de Manet, parce que je m'étais plongé, bien sûr, dans l'analyse de Titien, qui était assez fascinante, concatenation di spazio, etc., etc. Et puis, j'ai lu à ce moment-là l'historien américain Michael Fried, et le gros livre hein, qu'il a consacré à Manet, où le titre anglais, c'est « The facingness of painting », c'est-à-dire le fait que la peinture fait face. Et que, pour Michael Fried, le propre de la modernité de la peinture de Manet, c'est que, désormais, tout le tableau fait face au spectateur, il est une surface qui regarde le spectateur. D'où les critiques qu'on faisait à Manet, effectivement, dans les années 1860, de peindre avec autant d'attention un chapeau qu'un visage. Oui, toute la peinture fait face. Et dans Olympia, par exemple, eh bien, le bouquet de fleurs de la servante noire, il fait face au spectateur tout autant que Olympia qui regarde. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, je crois que je comprends ce que Manet a vu dans Vénus des Urbains et pourquoi c'est ce nu-là qu'il est allé chercher, que tu n'es pas le plus somptueux de Titien, mais sans doute le plus théorique de tous les nus de Titien, parce que dans le fond, Titien fait une opération théorique dans ce tableau. On lui a demandé de peindre une femme nue, c'est le titre de la commande, c'est ça, la Donna Ignuda, une Donna Ignuda. Eh bien, il peint une femme nue, et le lieu de cette femme nue, il n'y a pas d'autre lieu que la peinture elle-même. Et quel lieu occupe-t-elle? La surface du tableau. Et que fait-elle depuis cette surface? Elle nous regarde. Parce qu'effectivement, si vous regardez les vues urbaines, vous verrez que où que vous soyez dans l'espace, elle vous regardera, pour une bonne et simple raison, parce que son regard est perpendiculaire au plan du tableau, et donc vous avez l'impression qu'il vous suit. Donc, où que vous soyez, la Vénus d'Urbain vous regarde. Et je crois que je me suis dit, ben voilà, que ce que sans doute avait dû percevoir Manet, c'était, alors, sans avoir besoin de faire tout ce détour par l'histoire que j'étais, moi, obligé de faire, il avait perçu, en fait, l'opération même de Titien, qui consistait à faire que le nu, eh bien, n'ait pas d'autre lieu que la surface de la toile. Que ce soit, d'ailleurs, ce qu'on disait dès le XVIIe siècle à propos de Titien, était le lit de la peinture. Hein. C'est Boschini qui le dit au mot de Titien. Titien préparait la peinture comme un lit. Bien, effectivement, mais ce lit, eh bien, c'est la toile elle-même. Et je suis, maintenant, je dois vous dire, je suis persuadé qu'effectivement, c'est ce qu'a vu Manet, et c'est pour ça qu'il allait choisir non pas les mayas de Goya, hein, la maya nue de Goya, il n'est pas allé prendre la Danae de Titien, il n'est pas allé prendre un nu de Rubens, c'est allé prendre la Vénus d'Urbain, premier nu féminin de Titien, où Titien fait l'opération théorique et la naissance du nu féminin. Et je crois que ça, Manet, ça, l'a vu. Hein, il l'a vu et qu'il se l'est approprié au point de le démontrer. Alors qu'est-ce que je veux dire? Bien, si vous regardez maintenant l'Olympia de Manet, après avoir bien regardé la vue des urbains de Titien en pensant à Titien, non pas à Manet, remarquerez que bien sûr c'est le même schéma, hein, c'est absolument le même schéma, il a remplacé le chien par un chat, on en a déjà parlé, mais point plus précis, j'ai dit tout à l'heure que la séparation verticale noire, hein, entre la partie gauche où il y a le corps, les seins, la tête de Vénus, et la partie droite où à l'arrière-plan il y a deux servantes, c'est une ligne absolument rectiligne qui tombe à l'aplomb exact du sexe de Vénus. Si vous regardez l'Olympia, vous verrez que cette bande verticale est liée absolument, mais Manet a pris le soin de la décaler, hein, par rapport au sexe et à la main d'Olympia, c'est légèrement sur la droite. C'est-à-dire, ce qui était dans le tableau de Titien, le point de concentration de mon regard, parce que le point de fuite se trouve pratiquement là, de l'articulation entre premier plan et arrière-plan, et du sexe de Vénus, puisque la ligne verticale tombait à la pointe du sexe de Vénus, Manet l'a mis en surface. Hein, il l'a étendu, il a accentué, là, on dirait en termes modernes, en termes vraiment 20e siècle, la planéité, hein, de la peinture. Alors que chez Titien, ça jouait encore sur la profondeur, ça jouait sur l'idée que la planéité, elle se joue entre deux espaces, l'arrière-plan et mon espace, qui a le plan de la surface. Ce que fait Manet, c'est qu'il prend ce tableau, il se l'approprie, hein, et il en fait, comment dire, on pourrait dire un des actes de naissance de la planéité en peinture, du fait qu'une peinture, comme là je crois très bien dit Michael Fried, c'est d'abord fait pour être regardé, et que ça nous regarde, bon, et que ça nous regarde à partir de toute la surface du tableau de peinture. Alors voilà, si vous voulez, je pense, on pourrait dire une approche anachronique, puisqu'il a fallu que je parte de Manet, hein, pour aller vers Titien, ensuite que j'oublie Manet pour me concentrer sur Titien, pour ensuite revenir vers Manet et mieux comprendre ce qu'il avait essayé de voir. Je pense qu'il y a là une possibilité, encore une autre possibilité, pour l'histoire de la peinture ou l'histoire de l'art, on pourrait le faire aussi pour la sculpture, ou pour l'architecture, d'essayer de se rapprocher des processus historiques, hein, qui ont fait que les tableaux ou les œuvres apparaissent à un certain moment. C'est pas pour rien que Manet est allé voir la Vénus d'Urbain. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans la Vénus d'Urbain qui est légitimé l'anachronisme de Manet? L'artiste est naturellement anachronique. L'artiste s'approprie des œuvres du passé et c'est son devoir. Hein. S'il se contente de les copier et de la citer respectueusement, eh bien il sera, on va dire, un académique académique. Le propre du créateur, c'est s'approprier le passé hein, pour comment dire, le transformer, le digérer et en donner un autre résultat. Et je crois que c'est une manière, pour l'historien, disons, de l'art, une bonne manière pour s'interroger sur les limites de sa propre discipline et sur comment dire, essayer d'élargir ses limites. C'est-à-dire se dire que les artistes nous apprennent à voir. Hein, ils nous apprennent à voir à la façon d'un artiste. Et il faut non pas s'imaginer qu'on va retrouver le regard de l'artiste, mais s'interroger toujours sur la façon dont, dans certains cas, telle ou telle œuvre me suggère un regard tout à fait inattendu, singulier, personnel, appropriateur de tel artiste sur tel artiste du passé. Et ce regard, dès lors que ce sont des grands artistes, eh bien évidemment, il va m'apprendre beaucoup de choses sur l'œuvre du passé si je réussis à déchiffrer l'œuvre du passé à l'intérieur de son temps, parce que je reste toujours historien. Et c'est pas seulement de dire Manet a vu ceci, je peux dire Manet a vu ceci, parce que, effectivement, au XVIe siècle, j'ai vu comment Titien avait construit ceci.